Le journal Loïc Barrière. Un Irakien inculpé en Belgique pour crime de guerre. Joe Biden appelle un cessez-le-feu durable au Soudan. La visite à Rabat d'Éric Ciotti, le patron de LR, souligne l'amitié ancestrale et indestructible entre la France et le Maroc à un moment difficile de cette relation. L'autre 8 mai 1945, un rassemblement organisé lundi à Nanterre pour rappeler le massacre de milliers d'Algériens à Sétif, Guelma et Kerata, entretien avec Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges. Enfin, un coup de froid dans les relations entre la France et l'Italie après les propos de Gérald Darmanin accusant Giorgia Meloni d'être incapable de régler les problèmes migratoires. En Belgique, l'arrestation d'un Irakien résidant dans le pays depuis 2015. Il est inculpé pour participation aux activités d'un groupe terroriste et crime de guerre. La justice lui reproche son rôle présumé dans des attentats à Bagdad. C'était en 2009 et 2010. La violence au Soudan est une tragédie et doit cesser. Un appel lancé par Joe Biden, qui a réclamé un cessez-le-feu durable entre l'armée et les paramilitaires. Alors que les combats continuent à Khartoum, le président américain envisage des sanctions contre les individus qui menacent la paix au Soudan. Le Soudan, l'un des sujets de discussion ce week-end entre l'Arabie Saoudite et Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden. Lors de sa visite à Riyad, le responsable américain discutera également du Yémen, de l'Iran, de la Syrie, de l'Irak et du conflit israélo-palestinien. La visite au Maroc d'Éric Ciotti, le patron des Républicains. Il s'agit de sa première visite à l'étranger depuis qu'il a accédé à ses nouvelles fonctions. Reçu par les leaders du RNI, le patron des Républicains a rappelé les liens qui unissent la France et le Maroc à un moment où ces relations passent par un moment difficile. Éric Ciotti.
Nous avons voulu ensemble, par notre déplacement, exprimer l'amitié indestructible, l'amitié ancestrale entre la France et le Maroc à un moment difficile de nos relations. Et notre déplacement témoigne de la volonté d'un grand parti français, des Républicains, qui ont apporté 5 présidents de la République à la France, de dire que ce lien fondée sur une histoire commune, fondée sur une amitié puissante et forte, ne pouvait pas, ne devait pas être abîmée, altérée, et que nous voulions, par ce message, témoigner de l'indispensable lien entre nos partis, bien sûr, mais surtout entre la France et le Maroc. Nous avons des liens culturels, des liens économiques très puissants qui s'expriment par la présence d'entreprises françaises nombreuses au Maroc, de relations commerciales fortes. Nous avons aussi des sujets extrêmement importants et le Maroc joue un rôle majeur sur ce continent africain, au Maghreb, notamment dans la régulation des flux migratoires. Et nous avons la nécessité de réinstaller sur ces sujets aussi une politique de concertation, de coopération qui développe tous les éléments de ces questions migratoires, notamment l'accueil en France de ressortissants marocains qui ont une expérience, une expertise qui est faite souvent sans concertation. Nous avons à lutter aussi contre les flux migratoires qui viennent de l'Afrique subsaharienne et pour laquelle le Maroc a un rôle important. Nous avons la question des reconduites depuis la France des étrangers arrivés en situation irrégulière. Nous avons évoqué ces questions dans un esprit d'amitié, de fraternité, oserais-je dire, qui est fidèle à notre histoire commune. Et puis nous avons voulu, et nous allons y travailler, établir aussi un partenariat entre le RNI et les Républicains qui permettra d'exprimer publiquement avec force notre volonté de travailler ensemble, de travailler dans l'harmonie de nos valeurs, mais de travailler aussi et d'œuvrer, c'est notre message, à l'amélioration des relations entre le Maroc et la France, parce qu'il est insupportable de mesurer aujourd'hui cette dégradation. Elle n'est ni bonne pour la France, ni bonne pour le Maroc. Et nous devons aujourd'hui faire en sorte que les erreurs qui ont été commises, le manque de considération témoigné à l'égard du Maroc, soient réparées. En tout cas, nous y participerons, nous y contribuerons dans notre expression politique en France, parce que nous avons besoin, la France, l'Europe a besoin, et l'Europe ne peut pas adresser des messages aussi inamicaux à l'endroit du Maroc. Nous avons besoin de ce lien si puissant entre le Maroc, l'Union européenne et la France.
Éric Ciotti, député et président des Républicains. Lundi, la France va commémorer la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le 8 mai 1945 a une autre signification en Algérie, puisque ce jour-là et dans les mois qui ont suivi, la France coloniale a massacré des milliers d'Algériens à Sétif, Guelma et Kerata. Le collectif unitaire pour la reconnaissance des crimes coloniaux organise un rassemblement baptisé l'autre 8 mai 1945, lundi à midi à Nanterre, face à la préfecture. Entretien avec Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges.
Le 8 mai 1945, alors que c'était la joie à Paris et dans le monde entier, qu'on célébrait la fin de la guerre, on avait vaincu le nazisme, et d'ailleurs les Algériens ont participé activement à la Deuxième Guerre mondiale pour battre le fascisme, le nazisme, aux côtés de l'armée française. Eh bien, pendant que on faisait la fête à Paris, partout, en province, eh bien, en Algérie, à Sétif, Guelma et Kerata, il s'est passé une horreur, un terrible drame. C'est-à-dire que des Algériens, notamment avec des scouts algériens, des enfants, faisaient une manifestation pacifique à Sétif devant la mairie, un grand rassemblement. Pour dire quoi? Pour dire simplement, écoutez, nous avons participé à la guerre contre le nazisme, nous avons contribué à libérer le monde du nazisme, donc par conséquent, nous aimerions avoir la liberté, la justice, l'égalité et l'indépendance de l'Algérie. Pour avoir osé brandir un petit drapeau, un jeune enfant de 15 ans, Saïd Sahal, Bouzid Sahal exactement, eh bien il a brandi un drapeau et il a été assassiné froidement par un gendarme à bout portant. Et donc il y a eu une émeute, c'est parti dans tous les sens. Il y a eu effectivement une centaine d'Européens, comme on disait à l'époque, qui ont été victimes. Et pour cela, eh bien, la répression sera féroce.
Alors justement, parlons de cette répression. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Que sait-on de cette journée du 8 mai?
Alors, selon des sources bien informées, notamment, je me fie au travail de Jean-Louis Planche, chronique d'un massacre annoncé, Sétif, Guelma et Kerata. D'ailleurs, c'est un historien très important qui a travaillé avec les archives de la CIA, parce que la CIA était là-bas, elle a filmé, les Américains étaient présents en Algérie à l'époque, donc notamment à travers leurs services secrets. Et donc, on a les archives maintenant sur lesquelles a travaillé notre ami Jean-Louis Planche, l'historien. Ce qui s'est passé, c'est simple, c'est qu'il y a eu une terrible répression par les colons et l'armée française. Et ça s'est passé pas seulement un jour, pas seulement deux jours, ça s'est passé du 8 mai 1945 jusqu'au 30 septembre 1945, c'est-à-dire cinq mois. Durant cinq mois, il y a eu une répression terrible dans l'Est algérien. Donc il y a eu évidemment Sétif, Guelma et Kerata, mais pas que, d'autres villages autour, dans l'est algérien. Ça a été une horreur. Ça a été jusqu'au point où le simple fait d'arrêter un individu soupçonné, un arabe, comme il disait, que l'on soupçonnait d'être un terroriste, eh bien, on le fouille. Et si jamais on trouve un écrit en arabe, eh bien, il était tué à bout portant. Vous voyez jusqu'où ça va. Donc, le résultat des courses, c'est quoi de cette violence, de ce crime contre l'humanité? Eh bien, ça a été près de 40 000 personnes qui ont été assassinées, des civils, froidement, de manière massive. Et donc, quand les Algériens, ce qu'on appelle les tirailleurs algériens, sont rentrés chez eux, parce que chez leur famille, pensons que ça y est, c'était l'acquis, la guerre était finie, voilà, maintenant on va retrouver nos familles, quoi. Et puis peut-être l'indépendance bientôt, on récompense. Eh bien, ça a été l'horreur pour eux, parce qu'ils ont trouvé, leur famille était, les villages étaient brûlés, leur famille était morte, et donc il n'y a plus personne. C'était l'incompréhension totale, et c'est le début de la révolution algérienne, puisque la révolution algérienne, ce n'est pas le 1er novembre 1954, mais c'est bien le 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kharata. C'est là que s'est construit la conscience du nationalisme algérien, véritablement, et c'est là que la révolution a réellement émergé en disant « c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à attendre des aspects démocratiques de la France ». La seule chose qui va compter pour les révolutionnaires de l'époque, eh bien, c'est la révolution avec les armes.
Ce massacre a été passé sous silence. C'est la raison pour laquelle vous allez le commémorer ce lundi 8 mai à Nanterre.
Oui, absolument. C'est un silence assourdissant, puisque depuis le voyage du président de la République, Emmanuel Macron, en Algérie, à Alger notamment, où il avait déclaré qu'il y avait bien eu un crime contre l'humanité. Le même candidat, Emmanuel Macron, devenu président, c'est devenu le silence total. Et donc, nous, ce qu'on demande précisément, à travers ce rassemblement, à travers ce travail de transmission, c'est que ce crime contre l'humanité soit reconnu par les plus hautes autorités françaises, et notamment le président de la République. Et donc on essaye effectivement à travers ce rassemblement, à travers les prises de parole qu'il y aura, eh bien de faire acte de transmission historique, parce que c'est quelque chose d'important. Cette histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de France. Parce que à l'époque, l'Algérie était un département français. Et donc ça s'est passé à travers les autorités françaises, à travers les autorités politiques de l'époque. Voilà, les Français sont amputés d'une partie de leur histoire et il s'agit de restituer cette histoire. Et donc, à travers nos rassemblements, nous faisons œuvre d'histoire française.
Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges, le rassemblement baptisé l'autre 8 mai 1945, a lieu ce lundi à midi à Nanterre, devant la stèle du 17 octobre, en face de la préfecture. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a voté une proposition de loi pour mieux prendre en charge les femmes après une fausse couche. Le texte prévoit un accompagnement psychologique et un arrêt maladie sans jour de carence. Le chef de la diplomatie italienne exige des excuses de Gérald Darmanin après ses déclarations sur Giorgia Meloni. Hier, le ministre français de l'Intérieur a déclaré que la première ministre italienne était incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Selon la presse italienne, Meloni aurait décidé de geler sa visite en France. La réaction à ces propos du ministre de l'Intérieur, du député LFI François Piquemal, il est l'invité ce soir de Pluriel.
Bon, je pense que là, M. Darmanin, comme beaucoup, beaucoup de fois, fait des effets de manche, puisque lui-même, sur certains sujets, n'hésite pas à prendre les thématiques de l'extrême droite et à trouver Marine Le Pen parfois trop molle sur ce sujet. Je pense que plus globalement, la question de l'immigration est une question complexe qui est partie intégrante de l'histoire de notre pays. Il y a eu des vagues de migrants depuis toujours, Moi-même, je suis Toulousain. Si vous voulez, il y a eu différents peuples qui se sont succédés, des Volsques Texo-Sages aux Visigoths et ensuite des vagues migratoires qui ont lieu au 19e, au 20e siècle, venues des quatre continents. Dans l'idéal, les gens ne partent pas de leur pays ou de leur lieu de vie par plaisir. On ne part jamais par volonté ou alors c'est très rare. C'est parce que les conditions de vie sur place ne sont pas acceptables ou tenables. Donc bien sûr qu'il faut accentuer l'aide au développement. Et moi je tiens à dire à Gérard Darmanin qui traite les militants écologistes d'éco-terroristes qu'aujourd'hui le dérèglement climatique est le facteur qui va être le plus important dans le fait que des gens ne vont avoir d'autre choix que de migrer s'ils veulent pouvoir survivre. Donc, s'attaquer, entre guillemets, au fait de vouloir moins de migration, c'est passer aussi par la lutte contre le dérèglement climatique. Et je pense que ça, ce serait quelque chose de plus efficace, tout comme l'aide au développement et la solidarité entre les peuples.
Comment analysez-vous la progression de l'extrême droite dans les sondages? Est-ce qu'il faut prendre au sérieux le risque de son arrivée au pouvoir en 2027?
Alors, l'extrême droite a déjà été plusieurs fois au second tour, donc la potentialité qu'elle arrive au pouvoir est réelle. Maintenant, je pense que comme souvent dans les sondages, elle est surestimée et que nous sommes sous-estimés. Mais chacun commence à bien comprendre que la déliquescence intellectuelle et morale du macronisme l'entraîne vers des bas-fonds, juste l'entêtement d'Emmanuel Macron qui ne se représentera pas, et que le match en 2027 sera entre nous, la NUPES, la gauche unie, et l'extrême droite. Et donc, pour cela, il faut, et c'est ce que nous nous efforçons de faire, être le camp de ceux qui portent l'espoir, et non pas la frustration et la haine de l'autre, comme le Rassemblement national. Et moi, j'invite tous vos auditeurs à aller bien voir les votes des députés du Rassemblement national qui prétendent pourtant être près du peuple. C'est eux qui votent contre l'augmentation du SMIC, c'est eux qui votent contre l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est eux qui votent contre la taxation des super-profits. Donc vous voyez, le fauné du Rassemblement national, derrière, c'est bien la protection de l'oligarchie et du capitalisme en face.
Le député LFI, François Piquemal, il est l'invité de Pluriel ce vendredi à 19h et 23h. À l'approche d'un nouveau long week-end, l'établissement français du sang lance un appel aux donneurs, notamment ceux du groupe O négatif. L'établissement précise qu'avec les 4 jours fériés et les ponts, ce sont plus de 25 000 poches de sang qui ne seront pas recueillies en ce mois de mai. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.